Voici donc votre rendez-vous avec l'accent des autres et comme chaque semaine, l'essentiel de l'actualité des médias francophones publics, c'est avec la radio-télévision suisse, France Inter, Radio-Canada, la RTBF et RFI. Et on va commencer avec ce chiffre aujourd'hui, 138 millions de dollars au moins. 138 millions de détournements par le clan Kabila au Congo. C'est la conclusion d'une vaste enquête, des révélations obtenues notamment par RFI avec une série d'autres médias, Amélie Dulé.
Le résultat d'une enquête de 9 mois avec 19 médias et 5 ONG mobilisés pour mettre au jour des détournements de fonds publics par le camp de l'ancien président Joseph Kabila dans un des pays les plus pauvres au monde.
Au Canada à présent, une partie de la province de la Colombie-Britannique a été submergée cette semaine, Benoît Audet.
Des inondations historiques ont entraîné la montée des eaux et des glissements de terrain et déjà on sait que la reconstruction de plusieurs infrastructures prendra du temps.
En Suisse, les athlètes pourront s'adresser de manière anonyme à un organe indépendant pour dénoncer les mauvais traitements qu'ils subiraient, Pierre Anchoffat.
C'est l'une des mesures fortes voulues par la Confédération après le scandale qui a ébranlé la Fédération suisse de gymnastique, un levier aussi pour changer la culture de certains entraîneurs dans le sport d'élite.
Et puis en Belgique, l'augmentation du nombre de patients Covid en soins intensifs inquiète les autorités. Jacques Kremers, elles ont décidé de renforcer les mesures de prévention.
Pas de fermeture de secteur ou d'activité, mais le masque sera désormais obligatoire, en plus du pass sanitaire, et ceci dès ce samedi 20 novembre.
Enfin, c'est une tradition qui serait en train de se perdre. La France et son Beaujolais nouveau attireraient de moins en moins d'amateurs, Karine Bécard.
Oui, le Beaujolais nouveau, chaque année de retour le troisième jeudi du mois de novembre. Ça s'est donc passé cette semaine, il y a quelques jours. Et il est effectivement moins apprécié, moins attendu, même à Lyon, vous l'entendrez, où c'est le cœur de la tradition.
Voilà pour le programme de cette semaine. Bienvenue dans l'accent des autres. Congo Hold-up, c'est le titre de cette vaste enquête donc, qui révèle comment des sociétés de l'ancien président congolais Joseph Kabila et de son entourage ont reçu au moins 138 millions de dollars d'argent public, Amélie Tulé.
Oui, RFI, en partenariat avec donc plusieurs médias et des ONG, a enquêté à partir de la plus grande fuite de documents confidentiels qu'a connue à ce jour le continent africain. Il s'agit de millions de données obtenues par la plateforme de protection des lanceurs d'alerte d'Afrique et le site d'information français Mediapart, des documents bancaires du groupe BGFI couvrant une période de 10 ans.
Alors Amélie, que révèle l'examen de ces documents ?
Alors l'enquête montre comment Joseph Kabila et son premier cercle, des membres de sa famille ainsi que des associés, ont obtenu au moins 138 millions de dollars d'argent public à travers toute une nébuleuse de sociétés dont certaines inconnues en RDC. Le premier volet de l'enquête se penche sur le cas de Sudoil, une société dont la famille de Joseph Kabila prend le contrôle en 2013. Cette société et ses satellites vont, selon les auteurs, siphonner de l'argent public. Des centaines de requêtes d'informations ont été envoyés ces dernières semaines en RDC et ailleurs pour tenter de comprendre ces flux. À noter que ni Joseph Kabila ni sa famille n'ont donné suite à ces demandes. Et on rappelle, Olivier, que plus de 70% de la population de la République démocratique du Congo vit aujourd'hui avec moins de 2 dollars par jour.
Voilà donc Congo Hold Up, c'est à lire sur RFI.fr notamment, cette nouvelle enquête donc collaborative qui dévoile d'importants détournements de fonds publics en République démocratique du Congo. Des pluies intenses, des routes emportées, des maisons inondées, plusieurs milliers de résidents de la Colombie-Britannique au Canada ont vécu un véritable scénario d'apocalypse cette semaine. La province de la côte ouest, déjà habituée aux événements météorologiques extrêmes, doit maintenant se relever de cette nouvelle catastrophe, Benoît, et les dégâts sont considérables.
Oui, au-delà des maisons inondées, ce qui est frappant, c'est le nombre de sections de routes qui ont été gravement endommagées ou carrément détruites. Les pluies diluviennes sont tombées sur des régions montagneuses et toute cette eau a dévalé les montagnes, emportant tout sur son passage jusqu'à la plaine côtière du fleuve Fraser à l'est de Vancouver.
Oui, précisément, Benoît, la ville de Vancouver, la troisième du Canada, est maintenant coupée du reste du pays.
Toutes les routes qui mènent à la ville à travers les montagnes rocheuses ont cédé sous la pression de l'eau. Pour le moment, la priorité, c'est de rétablir ces liens routiers. Mais déjà, le gouvernement de la Colombie-Britannique indique que ces routes ne seront rouvertes qu'aux déplacements essentiels. Vancouver, c'est le principal port canadien sur l'océan Pacifique, donc on craint déjà des effets sur la chaîne d'approvisionnement.
Et cette catastrophe n'est pas la première qui touche la côte ouest.
L'été dernier, le centre de la Colombie-Britannique a été aux prises avec de gigantesques incendies de forêt et un mercure qui a grimpé jusqu'à 50 degrés Celsius. Donc, les événements météo extrêmes semblent devenir la norme dans cette région. Le défi maintenant, ce sera de voir comment les populations et les infrastructures pourront s'adapter à cette nouvelle réalité.
Voilà pour les inondations au Canada. La Belgique aussi a vécu une situation dramatique. C'était l'été dernier, il y a tout juste 4 mois, Jacques.
Oui, la situation dans les communes belges sinistrées est toujours difficile et précaire. Les expertises se poursuivent, se font attendre encore parfois et l'épuisement gagne de nombreux sinistrés. Des milliers de maisons sont écorchées en attente de séchage. D'autres sont devenues instables, il faudra les démolir et encore des mois de travaux comme pour cet habitant riverain de Lamblève.
On n'aura pas fini d'ici, à mon avis, juin, juillet de l'année qui va venir. Ça a été dans l'eau, ça ne va plus, c'est un feu appelé. Les meubles, n'en parlerons pas, vous êtes rentré dans la cuisine, il n'y a plus de cuisine. Les divans qui étaient sur des tréteaux comme ça, montés à 1,50 m par rapport au niveau sol, ça n'a pas suffi, quoi.
Comme au Canada, l'armée avait aussi été appelée en renfort, mais devant la commission inondation mise en place au Parlement wallon, les bourgmestres ont la plupart exprimé un sentiment d'abandon et de solitude face à l'organisation des premiers secours.
La Confédération suisse, à présent, elle prend des mesures pour protéger les jeunes athlètes contre les mauvais traitements. Ça fait suite, Pierran, au témoignage l'année dernière de plusieurs gymnastes mises sous pression par leurs entraîneurs.
Des gymnastes qui n'ont osé parler qu'après avoir cessé la compétition. Un rapport indépendant rendu public cette semaine confirme les pressions psychologiques subies par ces jeunes mineurs au sein même du centre d'entraînement national de Macolin. Humiliation, abus, les termes sont forts. Pour la ministre en charge des sports, Viola Amerd, le sport d'élite a toute sa raison d'être, mais pas ou plus à n'importe quel prix.
On veut des athlètes de pointe, on veut gagner des médailles, mais pas à tout prix. La personnalité de l'athlète doit être en premier plan. Au second plan, le sport. Et ça, on doit vraiment avoir un changement de culture.
Oui, une culture a changé, dit la ministre à l'instant. Ça veut donc dire, Pierran, qu'il ne s'agissait pas de quelques cas isolés.
Ce n'est sans doute pas le cas dans toutes les disciplines sportives. La gymnastique, avec de très jeunes athlètes, est particulièrement sensible. Mais ce vendredi encore, une nouvelle affaire a éclaté dans le domaine du basket féminin. Là aussi, des athlètes ont fini par briser le silence pour dénoncer l'attitude dégradante de leur entraîneur. Autant dire que les mesures annoncées par la Confédération seront utiles.
Et justement, Pierran, comment éviter ces pressions psychologiques pour pousser les athlètes à la performance?
La législation sur l'encouragement du sport fixera des exigences minimales aux fédérations sportives. Les comportements prohibés seront identifiés et listés afin d'objectiver les contrôles et les sanctions qui pourront en découler. La Confédération dispose d'une arme financière, le robinet des subventions. Et puis surtout, les athlètes disposeront désormais d'un service de signalement anonyme, un système qui veut absolument éviter que ces athlètes souffrent en silence pendant des années avant d'oser dénoncer les mauvais traitements subis. Voilà qui devrait aider à développer une nouvelle culture dans le sport d'élite.
L'accent des autres avec les médias francophones publics.
En Belgique, un nouveau concept est apparu cette semaine dans la lutte contre l'épidémie de coronavirus. C'est le CST+, comprenez le pass sanitaire plus le masque. Les deux ensemble, donc, Jacques.
Et cette mesure entre en vigueur ce 20 novembre. Le port du masque obligatoire est étendu. Il est obligatoire à l'intérieur dès 10 ans, sauf à l'école. Et hormis à table, pour l'horeca et en discothèque, si un test rapide est effectué à l'entrée, le Covid Safe Ticket, le pass sanitaire, ne suffit plus. Il s'accompagne dorénavant du port du masque obligatoire.
Oui, cela dit, Jacques, les différents gouvernements belges ont aussi décidé de rendre obligatoire le télétravail 4 jours par semaine jusqu'à la mi-décembre. Mais par ailleurs, ce qui fait aussi débat cette semaine en Belgique, c'est l'obligation de vacciner le personnel soignant.
Oui, car un accord politique est intervenu en début de semaine, prévoyant l'entrée en vigueur de cette obligation le 1er janvier, mais aussi des sanctions, un dispositif dénoncé par les syndicats. Et d'ailleurs, la CSC, le syndicat chrétien, a déposé un préavis de grève pour le 22 novembre.
Oui, et c'est la même chose du côté du syndicat socialiste. Préavis de grève aussi de son côté. Nous ne pouvons pas accepter cette perspective de licenciement, affirment les responsables syndicaux. En parlant de Covid, vous avez entendu que l'Autriche reconfine à nouveau toute sa population. Cela dit, la Suisse voisine, pour l'instant, ne bouge pas, Pierran.
Les nouveaux cas doublent pourtant toutes les deux semaines, sauf qu'à la différence de l'Autriche, les hôpitaux en Suisse ne sont pas saturés. Actuellement, moins de 20% des lits de soins intensifs sont occupés par des cas Covid. Et c'est le seul critère qui pourrait pousser les autorités à prendre de nouvelles mesures, selon le ministre de la Santé Alain Berset. Des cantons de Suisse orientale proches de l'Autriche pourraient toutefois prendre des mesures plus rapidement, vu leur taux d'infection plus élevé.
Enfin, il n'y a pas si longtemps, c'était un jour de fête. L'arrivée du Beaujolais nouveau n'est plus célébrée comme il y a 30 ans, le troisième jeudi de novembre, c'était donc jeudi dernier. On en dit de plus en plus de mal désormais, manifestement. Même à Lyon, la tradition se perd. C'est un reportage de Christophe Vincent dans la capitale française de la gastronomie.
Dans ce café, place des Jacobins, le Beaujolais nouveau fait beaucoup moins recette. Du coup, Pierre, le serveur, s'adapte.
On va proposer un petit coup de Beaujolais, un petit verre de Beaujolais avec un peu de charcuterie, tout simplement. Et puis voilà, mais c'est plus comme c'était, on le fait plus comme avant.
Parce que donc, les gens sont moins
intéressés, depuis bien avant le Covid. Hein. S'il y a un peu de monde, tout ça, on fera ce qu'il faut. Mais moi, j'y crois pas trop, non.
Il y a quand même des irréductibles comme Arlette et Christian.
Ah ben c'est important, c'est Lyon, dans toute sa splendeur, c'est le troisième fleuve.
C'est quoi les trois fleuves?
Le Rhône, la Saône et le Beaujolais.
C'est un petit peu passé de mode quand même.
Il n'y a plus la fête, non, ça c'est dommage. J'irais peut-être boire un petit coup. Hein.
Qui dit Lyon, dit Beaujolais nouveau, dit Bouchon. Je pense que ça se perd quand même, c'est un symbole. Il faut marquer le coup. Même s'il n'est pas toujours très bon, on va le boire quand même.
C'est quoi le programme de la journée?
Eh bien alors c'est les puces. Avec restaurant à midi et puis bah, le soir, bouchon au terreau.
Avec le pot de Beaujolais?
Ça va de soi, oui, absolument. Oui,
oui mais deux.
Cette année encore, le Covid a eu raison de deux rituels, le roulage des tonneaux dans les rues et la percée publique.
Reportage de Christophe Vincent pour France Inter. Merci à tous. C'était l'actualité des médias francophones publics, comme chaque semaine. L'accent des autres avec les partenaires que sont Radio-Canada, RFI, France Inter, la Radio-Télévision Suisse et la RTBF. On se retrouve, si vous le souhaitez, la semaine prochaine à la même heure.